la mer, tant redoutée et tant désirée des peuples, la mer par où les pires dangers peuvent menacer les États, mais sans laquelle il n'y a pas de grandeur.
Jukebox.
L'homme peut-il contrôler sa destinée ? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À bon Richardo.
Une page d'histoire mise en récit par un texte, des archives et des musiques associées à son sujet. Chaque samedi, de 19h à 20h sur France Culture, voici Jukebox. Bonsoir à tous. Ce soir, Jukebox affrontera les tempêtes, les grains, les vagues et les rats ou les lames de fond. Ce soir, nous tenterons de garder l'équilibre sur les ponts chahutés de navires en perdition. Des histoires de naufrage, donc, la mer ayant, comme le disait en ouverture le général, ceci de particulier qu'elle fascine autant qu'elle menace, qu'elle relie autant qu'elle terrasse. Dans cette histoire qui recoupe aussi celle des tentatives conduites par les hommes pour apprivoiser les flots du globe, on croisera un grain en plein désert, un orchestre dans un grand escalier, une carte marine muette, une révérence de trop et un oiseau tahitien. Ce soir, de la Méduse au Concordia, au sombre héros de la mer. Avant d'appareiller, en guise de prologue, rappelons ici le lien particulier qui unit les naufrages à la radio. Non seulement parce que la seconde est largement utilisée pour alerter les secours lorsqu'interviennent les premiers, mais aussi parce que très tôt, la radio avait chaviré ses auditeurs en brouillant les choses. Nous sommes en octobre 1924.
Allô, allô. Ici Pacquoville de Saint-Martin. En détresse par 23 degrés, 15 minutes, 25 secondes de longitude nord. Et 14 degrés, 35 minutes, 40 secondes de latitude est. Au chronomètre du bord, il est exactement 20h, 3 minutes, 35 secondes. Une voie d'eau à bâbord. Nous demandons du secours de toute urgence. Avertissez le port le plus proche.
Octobre 1924, captant les échos désespérés d'un navire en perdition tentant de joindre les secours à terre, des auditeurs parisiens de la TSF balbutiante alertent les autorités. J'aurai toute ma vie en mémoire ces angoissantes minutes. Témoigne l'un d'eux. Faute de capitainerie, il contacte la police. Le lendemain, l'événement fait la une de la presse. Ce à quoi ces citadins ont cru assister n'était pas un naufrage, mais l'extrait de la toute première fiction radiophonique. Ce théâtre radiophonique, on disait aussi radiodrame ou radiothéâtre, intitulé « Maremoto », soit le raz-de-marée en espagnol, avait été écrit dans le cadre d'un concours littéraire par un passionné de radio, un ingénieur de profession, Maurice Vineau, nom de plume, Gabriel Germinet. Ce court récit réaliste et sonorisé devait être joué quelques jours plus tard en direct sur Radio Paris. Ce qui avait été capté par quelques-uns n'était en réalité qu'un extrait d'une ultime répétition, brièvement mise en onde dans une sorte de dernier test technique. 14 ans avant la fameuse guerre des mondes d'Orson Welles, mettant en scène l'arrivée d'extraterrestres et qui occasionnera une agitation largement exagérée, Maremoto avait donc pris l'océan déchaîné pour cadre de la toute première panique radiophonique. Panique certes limitée, mais prise suffisamment au sérieux par les autorités pour que dans la foulée, le ministère de la Marine ne demande et n'obtienne l'interdiction de la pièce. Leurs auteurs s'étaient défendus, arguant qu'aucun marin digne de ce nom n'aurait pu être trompé, les coordonnées transmises par les opérateurs radio en détresse, situant le navire au beau milieu du Sahara. Pour le reste, hélas, les naufrages qui suivront ce soir n'avaient pas été des mirages. La traversée d'une tempête sentimentale par les Américaines du groupe Reparata and the Delruns, Captain of Your Ship, 1968. La pulpe de ses doigts finit par saigner tant il pince les cordes sur le manche de son instrument. Dans le grand escalier du navire, celui-là même dont il observait l'autre jour avec extase, le nez en l'air, le dôme de verre illuminé par l'immense lustre de cristal. Dans le grand escalier donc, ce soir, il garde la tête baissée sur la moquette rouge-orangée, accrochée à son violoncelle comme si sa vie en dépendait. Alors que non, le Titanic a déjà heurté la glace, pour eux, c'est cuit. Entouré des 7 autres membres de l'orchestre, Roger Bricou, un jeune Français, repense depuis quelques minutes à sa courte existence, à son Nivernais natal, à la Loire qui coulait en bas de chez ses parents du côté de Cône, à ce fleuve sauvage dans lequel régulièrement se noyaient les imprudents, happés par des trous d'eau. Il se dit qu'il aurait pu en profiter pour apprendre à nager. Faute de quoi, arc-bouté à son violoncelle comme à une bouée, il joue ainsi qu'on leur a demandé de le faire. Produire de la musique pour empêcher les larmes de les submerger, pour prévenir la montée prématurée des eaux, bref, pour empêcher la panique de se propager sur le paquebot. Ne vous arrêtez pas et surtout, faites en sorte que cela soit gai. Alors, depuis plus d'une heure, l'orchestre s'exécute dans le luxe et les lambris de chêne du grand escalier de première classe. Pendant qu'ils enchaînent les morceaux des styles les plus divers, du jazz aux chansons traditionnelles, Roger repense à ses 20 ans. Comme c'est allé vite, Cône-sur-Loire, puis rapidement Monaco, où son artiste de père vivait, Bologne en Italie, où il était parti suivre des études de musique. Les premiers contrats décrochés au Grand Central Hotel de Leeds, puis à Lille. Et, par la suite, cet engagement par la Black Talent Agency de Liverpool, qui détenait alors le monopole des orchestres des paquebots, ces géants des mers dont l'essor, depuis un siècle, ne connaissait pas de limites. Quelques mois plus tôt, il avait fait danser les élégances à bord du Carpathia, et le voilà, cette nuit du 14 avril 1912, à jouer tandis que le fleuron de la White Star Line, le Titanic, sombrait. Et que, dans les entrailles du navire, un jeune télégraphiste avait, lui, lancé un nouveau signal récemment validé par une convention internationale, un signal en morse qui, correspondant aux lettres SOS, semblait implorer « Save our souls, sauvez nos âmes ». À mesure que le navire s'enfonce, Roger Bricou ferme les yeux pour ne pas croiser les regards des passagers que la musique parvient de moins en moins à distraire. Mais il joue donc avec les autres tous les morceaux qu'ils connaissent. C'est la première fois que tous les 8 jouent en même temps. Depuis le départ de Southampton, il se produisait uniquement en trio ou en quintette. Mais ce soir-là, il avait paru évident qu'il fallait jouer le plus fort possible. À minuit et quart, soit 30 minutes après le choc, il s'était installé dans le salon des premières classes avant de gagner le grand escalier où, autour du piano à queue, les passagers s'étaient massés par centaines. Plus tard, lorsque ces mêmes passagers se regrouperont là-haut pour tenter de prendre place dans les canaux aux grandes dames des passagères inquiètes d'abîmer leur robe du soir, ces musiciens, 6 Anglais, un Belge et notre Français, continueront encore un peu de jouer à l'air libre sur le pont supérieur à tribord, au niveau de la deuxième cheminée. Vers 2 heures du matin, la gîte du navire empêchant de se tenir debout, le silence était retombé et l'insouciance de la belle époque avait basculé par-dessus le bastingage dans les flots sombres de l'Atlantique Nord, à quelques dizaines de kilomètres de Terre-Neuve. 1500 personnes y avaient laissé la vie, les 8 membres de l'orchestre du Titanic, dont le Français Roger Bricou, né à Cône-sur-Loire. Sea, she's there watching for me.
would fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. Meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go
Adaptation de la chanson de Trenès « Beyond the Sea » signée en 1960 de l'américain Bobby Darin. Le Titanic et son orchestre donc, héroïque ou inconscient ? Certains historiens considèrent en effet que, rassurant de leur mélodie les passagers, les musiciens auraient détourné ces derniers du danger, retardant la fuite pourtant inéluctable. Le Titanic, sur lequel veillait pourtant un homme d'expérience, le commandant Edward Smith, 62 ans au moment du drame, une belle barbe grise et un sens de l'honneur typique de l'époque. La nuit du naufrage, après le dîner durant lequel, discipliné, il n'avait pas bu une goutte, il était retourné se reposer dans sa cabine, demandant à ce qu'on le réveille en cas de problème, ce qui avait été fait lorsque le navire avait percuté l'iceberg. Selon les témoignages des survivants, avant de disparaître, Smith aurait secouru un bébé, puis, se tenant stoïque sur la passerelle, mégaphone en main, avait incité ses compagnons d'infortune à faire preuve de panache, plus précisément à se conduire en britannique. « Be British », avait-il lancé. Ce sens de l'honneur qui avait, les semaines suivantes, bouleversé l'opinion internationale, inspirant nombre de chansons comme celle-ci, interprétée par le chanteur Robert Carr, alias Ernest Gray, destinée à rassembler des fonds pour les familles des victimes.
When the mighty ship Titanic started from Southampton Bay, there were tears and fond goodbyes too, as she proudly steamed away. But soon a last disaster came and filled all hearts with woe. Although in sorrow now we weep, we yet are proud to know every man at his post as the big ship went down to save precious lives. There we find them. They died like heroes true. Now something we must do. For the wives and little ones they left behind them. In the darkness of the night there came a crash, the crash of doom. And the gallant crew soon realized the sea must be their tomb.
for the order came to lower the boat, unwanting her to be. The women and the children first, for that's the way at sea. Every man at his post, as the big ship went down, to save precious lives there we find them. They died like heroes true, for now something we must do. For the wives and little ones they left behind them.
1912, hommage aux marins du Titanic avec ce « Stand to your post », autrement dit « Restez à votre poste », faisant aussi écho à une autre tradition marine, sorte de code d'honneur exigeant du capitaine d'un navire en perdition qu'il ne quitte celui-ci qu'en tout dernier, voire qu'il coule avec l'épave. Héroïsme suicidaire, résumé en anglais par la phrase « The captain goes with the ship ». Mentionnons toutefois ici les réserves qui subsistent quant à l'exemplarité du commandant du Titanic. Certains avancent en effet que Smith aurait fait adopter au navire une vitesse excessive, alors même que depuis des heures, les messages alertant de la présence de bancs de brouillard et d'icebergs pleuvaient des navires alentours. Smith les aurait ignorés dans le seul but d'aller plus vite. Aucune légende n'échappe aux fissures. Dieu seul a le dernier mot.
On 14 days of April, yeah, 1912, when the Titanic struck the iceberg, almost too sad to tell. God moved, God moved, God moved. Oh, the people had to run and pray. When the Titanic was sinking, they put lifeboats all around. So let's save them women and children, even if the men go down. God move, God move, God move. Oh, the people had to run and pray. When the lifeboat got to the landing, the women looked around. They look out on that ocean, look at our men go down. God move, God move, God move. Oh, the people had to run and pray. Captain, he was laying down, sleep 'cause he was tired. But he woke up in a great flight, 'cause the minigun shot him far. God move, God move, God move. Oh, the people had to run and pray. Jacob Foster was a millionaire, had plenty of money to spare. But when the Titanic was sinking, Lord, he could not pay his fare. God move, God move, God move. Oh, the people had to run and pray.
Sans doute adapté d'un vieux gospel, ce « God moves on the water »,« Dieu bouge sur les flots », évocation du Titanic, par un certain Mens Lipscomb, un bluesman afro-américain né en 1895, ignoré pendant 60 ans et dont l'œuvre avait été découverte quelques années avant sa mort. Avec le recul, l'homme dont nous allons maintenant vous parler aurait sans doute préféré rester dans l'ombre. Autre lieu, autre époque et autre conception de l'honneur. Nous sommes exactement un siècle après la disparition du Titanic et les eaux qui nous environnent sont nettement plus chaudes. Mais là encore, l'histoire débute par une folie des grandeurs, une fâcheuse tendance des humains à confondre dépaysement et grégarisme, à s'entasser sur des monstres dont on se flatte à chaque fois, comme ici, qu'ils sont les plus gros du moment. Celui-ci, long de près de 300 mètres, comporte des dizaines de ponts, et plus ça brille et mieux c'est. Bienvenue dans la féerie vulgaire et kitsch du croisiériste Costa et de son nouveau veau marin, capable d'embarquer et de distraire des foules via 5 restaurants, 12 bars, des jacuzzis, piscines, toboggans aquatiques, casinos et évidemment, comment imaginer une croisière sans ça, un simulateur de Grand Prix. Livré en 2006, le Concordia avait été béni par le cardinal de Gênes et sablé au champagne par une employée des chantiers navals locaux. Celle-ci avait dû s'y reprendre pour briser le magnum contre l'étrave, ce qui n'est jamais bon signe. Sept ans plus tard, le Concordia a de la bouteille et ce vendredi 13 janvier 2012, en début de soirée, faisant fi des vieilles superstitions, il appareille en direction de Savone, près de Gênes. À son bord, 3200 passagers sur lesquels veillent un millier de membres d'équipage. Vers 21h, l'essentiel de ce petit monde dîne dispersé dans les différents restaurants du monstre. Le capitaine, lui, un certain Francesco Schettino, un quinquagénaire qui aime bien se pavaner dans son costume blanc, a choisi le Milano, situé à l'arrière, sur le pont 3. Il semble ce soir-là particulièrement excité, d'autant que dans quelques minutes, le navire qu'il commande va s'offrir une petite dérogation à la sécurité, longeant l'île de Giglio, pour effectuer ce qu'on appelle en italien un inchino, autrement dit une révérence, tradition consistant à longer au plus près un rivage pour en saluer les habitants. Or sur l'île du Giglio vit l'ancien instructeur du commandant, Francesco Schettino, qui, quelques minutes plus tard, est appelé par l'officier de quart. Apparemment, le navire, placé en pilote automatique, ne suit pas le bon cap. L'homme se lève, s'excuse et va reprendre les choses en main. Sauf que la vitesse du Concordia, 16 nœuds, est bien trop élevée pour laisser au veau le temps de rétablir son cap. À 21h45, le bâtiment talonne un récif situé à une encablure de la côte. La coque est éventrée à bâbord sur près de 70 mètres de long et le Concordia prend l'eau. Stupeur parmi les passagers, bientôt augmentée par une panne d'éclairage qui plonge la scène dans l'obscurité. Des échanges avec la Terre tentent de minimiser l'incident, évoquant un simple problème électrique. Heureusement, une passagère a appelé les secours qui envoie un remorqueur. Une heure après le choc, ordre est donné d'évacuer le Concordia.
Il pleut à Giglio, vieille commune ennuyée de la côte toscane. Triple A idiot, il nous faut oublier comme tes points Strauss-Kahn. Voilà ce que titra la capitale, les journaux ce vendredi-là, d'une écriture accidentée comme les routes paysages où le temps se dilate. Où le temps se dilate. Il pleut à Giglio, vendredi 13, à bord du côte Concorde, l'orgueilleux capitaine tarde à lancer les feux de détresse, à lancer les feux si près de la lagune. À tanguer le navire, l'homme amusé depuis la dune voit le ferry mourir si près de la lagune. À tanguer le navire, l'homme amusé depuis la dune voit le ferry mourir. Du ciel tombe des cordes, faut-il y grimper ou s'y pendre? Sur le pont du côte Concorde, 5 étoiles dans la nuit sont mortes. Du ciel tombe des cordes, faut-il y grimper ou s'y pendre? Sur le pont du côte Concorde, 5 étoiles dans la nuit sont mortes. Voilà ce qui arrive quand les bicoques sédentaires s'en vont voir du pays. Parade devant la rive, mais les eaux couleur d'opaline ne sont pas édentées. Ainsi, petit rocher, vous le croisez ta course. Pirate somnolent, mille fois dérangé par tes folles néons et le bruit de ta bourse. Il a mordu dedans. Il a mordu dedans, n'est-ce pas le ciel qui a ourdi la chute du vaisseau par la pierre éventrée. Dans sa panse alourdie de spa machine à sous, l'eau est entrée. L'eau est entrée. L'eau est entrée. L'eau est entrée. Du ciel tombe des cordes, faut-il y grimper ou s'y pendre? Sur le pont du Côte Concorde, 5 étoiles dans la nuit sont mortes. Du ciel tombe des cordes, faut-il y grimper ou s'y pendre? Sur le pont du Côte Concorde, 5 étoiles dans la nuit sont mortes. 5 étoiles dans la nuit sont mortes.
Côte Concorde, le groupe Feu Chatterton, extrait de leur premier album, 2015. Et du drame en eau glacée du Titanic, on glisse soudain vers le pathétique du Concordia et de son commandant Francesco Schettino, qui avait beau, 2 ans plus tôt, avoir donné un cours à l'université de Rome sur la gestion de crise, ce soir-là, il avait mal géré la sienne. Après avoir ordonné l'abandon du navire, il s'était empressé de le quitter lui-même à bord d'un canot de sauvetage, laissant son équipage se débrouiller seul, avant d'être, les minutes suivantes, contacté sur son portable par la capitainerie de Livourne. Extrait du dialogue surréaliste enregistré cette nuit-là.
Où êtes-vous, commandant? Dans une chaloupe de secours?
Oui, moi et le commandant en second.
Qui va diriger l'évacuation?
En ce moment...
Retournez à bord, ou alors envoyez quelqu'un pour diriger.
Je suis en train de diriger en ce moment.
Je vous donne un ordre, capitaine. Vous devez envoyer quelqu'un à bord.
On y va, on y va.
Vous m'avez compris, bordel. Vous retournez à bord pour diriger, c'est clair. 100 de personnes encore sur le bateau et vous abandonnez le navire?
Je n'ai pas abandonné le navire. Simplement, il a commencé à chavirer et j'ai été projeté dans l'eau avec mes officiers.
On verra ça plus tard, ok? Écoutez, commandant, il y a des gens qui descendent par l'échelle de proue. Cette échelle, vous devez la parcourir en sens inverse, monter sur le navire et me dire combien il y a de gens. C'est clair? Vous devez me dire combien il y a d'enfants, de femmes et de personnes ayant besoin d'assistance. C'est clair? Écoutez, Schettino, vous avez peut-être réussi à vous sauver de la mer, mais là, vraiment, ça va mal se passer. Je vais vous causer plein d'emmerdes. Allez à bord, bordel de merde.
Commandant, je vous en prie.
Non, non, pas de je vous en prie. Maintenant, vous y allez. Vous remontez à bord. Vous m'assurez que vous êtes en train de remonter à bord.
Je ne peux pas y aller.
Vous allez à bord, c'est un ordre. Vous ne devez penser qu'à ça. Vous avez déclaré l'abandon du navire. Maintenant, c'est moi qui commande. Vous remontez à bord, c'est clair? Il y a déjà des cadavres, Schettino.
Il y en a combien?
Je ne sais pas, hein, c'est sûr. Je l'ai entendu. C'est à vous de me dire combien, bon sang.
Toute la nuit, des hélicoptères avaient évacué des survivants, tandis que les chaloupes qui le pouvaient encore, compte tenu de la gîte extrême du bateau, étaient mises à l'eau. Au passage, de nombreux hommes avaient bafoué l'adage donnant priorité aux femmes et aux enfants. Bilan définitif, 32 morts. Le commandant serait rapidement arrêté et condamné à 16 ans de prison, devenant l'ennemi préféré de l'Italie, mais aussi étrangement le parfait bouc émissaire. Car des éléments de l'enquête mettront aussi en évidence la responsabilité de la compagnie elle-même, qui s'en sortira avec une amende ridicule. Costa Croisière, dont un responsable aurait insisté auprès du commandant pour qu'il effectue cette imprudente révérence. une compagnie où, selon d'anciens employés, l'ébriété était souvent de mise parmi les membres d'équipage. L'alcool qui, de fait, avait toujours entretenu d'étroites relations avec le monde des marins. France Culture, Jukebox, ce soir, l'océan sera leur tombeau. What should we do with the drunken sailors? What should we do with the drunken sailors? What should we do with the drunken sailors? I lie in the morning. Hey, ho, and up she rises. Hey, ho, and up she rises. Hey, ho, and up she rises. I lie in the morning. Go! Shell is better with a rusty razor. Shell is better with a rusty razor. Shell is better with a rusty razor. I lie in the morning. Hey, ho, and up she rises. Hey, ho, and up she rises. Hey, ho, and up she rises. I lie in the morning. The drowning ball, I drag him in the water with a drowning ball, I drag him in the water with a drowning ball, I lie in the morning. Hey, hold up, she rises, hey, hold up, she rises, hey, hold up, she rises, I lie in the morning. Le groupe Noir Désir, 1989, pour ce Drunken Sailors, reprise d'un chant traditionnel irlandais déplorant qu'au matin, en quittant le port, nombre de membres d'équipage soient rendus inopérants par excès de boissons. En parlant d'alcool, dans l'histoire qui suit, on passera du champagne au vin de mer. Mais au début, donc, champagne. Après tout, cet été 1816, la France ne s'apprête-t-elle pas à récupérer ses anciens comptoirs coloniaux ? Au Sénégal, en l'occurrence, que les Anglais, à la suite du traité de Paris, rendent à Louis XVIII pour récompenser le peuple français d'avoir renoncé aux sirènes napoléoniennes. Parmi les 400 passagers qui embarquent à bord de 4 bateaux, on trouve d'ailleurs le futur gouverneur de l'endroit, un certain colonel Schmaltz. 4 bateaux, dont une frégate, la Méduse, à la barre de laquelle on a placé un incompétent. Un vicomte limousin qu'on a voulu récompenser de sa loyauté envers la royauté, mais qui n'a pas navigué depuis 20 ans. Le vicomte en question, Hugues Duroy de Chaumaret, qui avait rapidement distancié les 3 autres bateaux du convoi, isolant la Méduse. Le 2 juillet 1816, apparemment induit en erreur par un passager prétendant avoir déjà navigué dans la zone, la frégate avait foncé sur des hauts fonds, s'échouant sur un banc de sable dans la zone dite du banc d'Arguin, à une 60aine de kilomètres des côtes mauritaniennes. À la décharge du commandant, la zone était fort mal documentée. La carte maritime Belin, utilisée par l'équipage, datant de 1753, comportait d'importantes erreurs de longitude. Comble de malchance, le navire s'échoue à marée haute. Inutile d'espérer un dégagement mécanique par le courant. Pour tenter de dégager le navire, l'équipage construit donc un immense radeau avec tout le bois disponible afin d'y transférer des charges. Le résultat permet de fait de délester la frégate et de la déséchouer. Mais quelques heures plus tard, une tempête éclate, endommageant le navire, jugé dès lors trop dangereux. Le 4 juillet, certains se répartissent en secret les places dans les canots de sauvetage qu'ils mettent à l'eau. Les 150 autres doivent se contenter du radeau, caillebotis glissant, instable et peu manœuvrable, surnommé la machine, que les canots censés remorquer décident rapidement d'abandonner à une périlleuse dérive.
Qui sont partis pour leur course lointaine et que la mer a englouti dans sa rage inhumaine. Où dormez-vous, âme des matelots? Vos rêves fous sont morts trahis par les flots. Chantez-vous, âme des matelots, ce chant si doux qui suit mon bateau. Où sont vos corps déchirés et nus que le flot roule en vainqueur? Sur quel récif de nous inconnus avez-vous brisé vos cœurs? Où dormez-vous, âme des matelots? Où pleurez-vous quand j'entends vos sanglots? On dit que vous veillez sur nous quand le navire aveugle lutte à mort contre les remous dans la houle qui beugle. Où dormez-vous, âme des matelots? Vos rêves fous sont morts trahis par les flots. Chantez-vous, âme des matelots, ce chant si doux qui suit mon bateau.
Surnommée la tragédienne de la chanson, star de la France de l'entre-deux-guerres, la chanteuse Damia pour ses naufragés. Mais revenons à notre radeau. Alors que certains des canots de sauvetage de la Méduse atteignent 4 jours plus tard Saint-Louis du Sénégal, sur le radeau de la Méduse, la situation devient rapidement explosive. Les naufragés n'ont presque rien à manger. La panique, surtout la nuit, allume démence et violence. Dans la cohue, les quelques barriques d'eau douce passent par-dessus bord et il faut vite se contenter de 2 tonneaux de vin pour étancher la soif qui rend fou. Au 7e jour, il ne reste que 27 survivants parmi les 150 personnes embarquées. Les officiers jettent les blessés à la mer pour réserver le vin aux valides. Finalement, au bout de 13 jours, le 17 juillet 1816, et alors qu'aucun effort particulier n'a été mis en œuvre par le commandant arrivé à Saint-Louis pour tenter de le retrouver, le radeau est finalement repéré. Le spectacle offert aux sauveteurs est insoutenable. Poussés par la faim, la colère et le vin mauvais, les survivants se sont entretués et pour certains, entre-dévorés. des cas de cannibalisme qui, fuitant les jours suivants dans la presse, feront beaucoup dans l'émotion suscitée, émotion amplifiée par le talent d'un peintre, Théodore Géricault, qui s'attelle en très grand format au récit pictural du drame, dont il restitue l'horreur dans ses moindres détails, installant pour ce faire son chevalet dans une morgue afin d'observer au mieux la décomposition des corps cannibalisés. Shipwreck Blues, le blues naufragé de la chanteuse Clara Smith, 1925. We come on this sloop, John B. Ceci dit, les naufrages, on peut aussi les chanter joyeusement. So, hoist up the John B, hoist up the John B. See how the mainsail, see how the mainsail. Call for the captain ashore, let me go home, let me go home. I wanna go. Ainsi dans la chanson suivante. Chanson populaire traditionnelle des Caraïbes évoquant le John B, un sloop, autrement dit, un petit navire à voile rapide et autrefois utilisé pour la pêche. Le John B, lui, dont l'équipage avait la réputation de devenir particulièrement joyeux quand il rentrait au port, mais qui aurait finalement coulé au large des Bahamas vers 1900. La chanson, tragicomique, sera plus tard reprise par les Beach Boys, qui en feront un tube planétaire en 66, mais que voici plutôt dans sa version locale, interprétée par le chanteur Blind Blake, accompagné par l'orchestre du Royal Victoria Hotel de Nassau. Grandma, Pa and me, we came on the slope, John B. Round Nassau Town, when it rolled,
drinking all night. And we got in a fight. I feel so breaker. I wanna go home. I bought me a brand new pants. I started to go to a dance. Too much sat down my pants, boys. I had to go home. I had to go home.
I had to go home.
I had to go home. Because my pants, boys, and I had to go home. I up the jumpy sail. Let's see how the mainsail set. Send for the captain, sure. Let me go home. The mate get drunk, broke up the people throng. The police came on board and take him away. They take him to jail, without any bail. I feel so breaker, I wanna go home. The cook he had the fits, he started painting up the people grits. Captain Pig, I need a bowl of our corn. Say, Mr. John Stone, please let me alone. We're going to sail home early today. Sailboat go by sail, and steamboat go by steam. Round Nassau town we did roam. Been drinking all night. I feel so breaker, I wanna go home. Heist up the jumpy sail, let's see how the mainsail set. Send for the captain, sure, let me go home. I wanna go home,
I wanna go home,
I wanna go home.
Le chanteur des Bahamas, Blind Blake, pour ce John B. Sale. Je suis dans l'œil du cyclone, il n'y a plus de ciel, tout est amalgame, il n'y a que des montagnes d'eau autour de moi. Vers 4 heures du matin, ce 16 novembre 1978, le navigateur Alain Colas envoyait depuis le large des Açores un tout dernier message à son sponsor, Radio Monte Carlo. Il n'y en aurait plus d'autres. Âgé de 35 ans, Colas, originaire du Morvan, avait découvert la voile sur le tard grâce à Eric Tabarly, devenant rapidement un marin d'exception, accumulant victoires et records. Cet automne 78, il faisait course en tête à l'occasion de la première route du Rhum filant à bord du Manureva, l'oiseau du voyage en tahitien, un trimaran tout en aluminium de 20 mètres de long, dont pourtant, malgré des recherches conduites par les avions de l'armée, on ne retrouvera pas la moindre trace, entretenant longtemps autour de cette disparition trop radicale, un halo de mystère et une légende, mise en musique l'année suivante par Alain Chamfort, d'après un texte de Gainsbourg.
Drame des transports, drame de la mer aussi, un chalutier a été découvert ce matin par 42 mètres de fond au large de Calais. Il y avait 7 marins à bord, un corps a été repêché. Le chalutier Virginie était parti lundi de Dunkerque. Il n'est pas rentré hier comme prévu et c'est alors que les recherches ont été déclenchées. Recherches qui ont abouti tôt ce matin à la découverte de l'épave. Chaque jour, on apporte la confirmation. Toutes les conditions étaient réunies pour que le naufrage du ferry Dona Paz aux Philippines soit une véritable catastrophe. On sait de façon certaine que le bateau transportait beaucoup plus de passagers qu'il ne pouvait en contenir. Certains avancent le nombre de 2000 au lieu de 600. On sait que les gilets de sauvetage se trouvaient dans des placards fermés à clé. Certains témoins affirment même maintenant qu'il n'y avait qu'un élève officier sur la passerelle pour commander la marche du navire lorsque la collision s'est produite avec un pétrolier. Le commandant de bord était dans sa cabine en train de regarder une cassette vidéo et les autres officiers buvaient, paraît-il, tranquillement une bière au bar.
Archives France Inter, 24 décembre 1987, et rappel en deux funestes dépêches combien la mer reste et restera toujours un territoire risqué, à même de réduire au silence navigateurs professionnels, pêcheurs, plaisanciers, aventuriers, touristes fortunés embarqués sur de luxueux paquebots ou simples passagers de ferries surchargées, comme cela avait été le cas du Dona Paz en 1987 aux Philippines, ou bien du Jola au large du Sénégal en 2006. 4000 victimes dans le premier cas, 1800 dans le second. Arithmétique macabre et vertigineuse, inéluctablement appelée à se creuser comme la houle, tant on mesure désormais l'ampleur indomptable de certains phénomènes, comme les vagues scélérates, ces murs d'eau pouvant atteindre 20 ou 30 mètres de haut et pulvériser n'importe quel navire. D'autant que l'arrogance des hommes semble elle aussi sans limite. Les derniers monstres de croisière construits cocorico au chantier naval de Saint-Nazaire, se targuant de pouvoir, vous parlez d'un progrès, entasser sur l'eau pas moins de 8000 personnes. Comme autant de collines occultant l'horizon, de crêtes insensibles à l'adagio des plaines. « Je suis vraiment navré », te dit le capitaine, et tu sens qu'il dit vrai et qu'il a le cœur bon. On se quitte sur la poésie maritime et l'horizon, signé Dominique A.
« Nous n'irons pas plus loin », te dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. Des baleines épuisées gémissent sur la grève. Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons, comme autant de collines occultant l'horizon. De crêtes insensibles à la nature des plaines. Je suis vraiment navré, te dit le capitaine. Et tu sens qu'il dit vrai et qu'il a le cœur bon. Dès lors la bouche fermée d'une femme au harpon qui entre dans tes murs et saigne les baleines, te fait des mois durant dédaigner l'horizon. Et lorsque tu le croises, snober le capitaine. Quand tu rentres chez toi, tu te dis qu'il fait bon. Le mensonge est partout, infiltré dans tes veines. Tant tu aimes goûter au sang de la baleine qui déborde des lèvres de la femme au harpon. Mais un jour sur ta manche tire le capitaine, les yeux exorbités, il te dit repartons. Il est temps de sortir du sommeil des reines, car nul ne vous attend autant que l'horizon. C'est l'aube nord qui t'espère, l'Inlandis qui t'appelle, la Sierra Nevada qui la nuit crie ton nom. Et c'est la grande bleue qui rehausse le ciel. Chacun d'eux te réclame et t'offre l'horizon. Mais celui-ci t'échappe, stoppé dans son élan, par des sommets hargneux, des vallées encaissées, des villes au cœur de pierre, aux formes insensées. Vois, la barbe te pousse et ton pas se fait lent, et tu entends au loin les plaintes des baleines qui, avant de finir sur la grève, ont sans doute connu cet horizon dont seul le capitaine espère encore pour deux que tu croises la route. Mais un jour au silence qui monte aux alentours, quand tes yeux se décollent, tu sais qu'on t'a laissé seul avec ton vieux rêve dont l'ombre est un vautour, qui dessous tes haillons sent la chair à sécher les commandes de l'encercle, il va pourtant entreprendre. Le décor s'aplanit, les courbes se défont, tout se dégage, oui, sans doute là de t'attendre. Celui qui vient à toi, il est là, l'horizon.
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox ce soir, de la Méduse au Concordia, au sombre héros de la mer. Une émission préparée par Sophie Linaire, Chouchane Djergaillan, avec les conseils d'Antoine Villos de la discothèque et ceux de Manon Lenoir. Jukebox se réécoute et se télécharge en ligne sur franceculture.fr, où vous retrouvez la liste des morceaux diffusés, les références des archives et la possibilité de nous écrire. Ce soir aux manettes, c'était Alain Joubert. La réalisation était signée comme chaque semaine Agnès Catou. Au micro, Amaury Chardot. À samedi 19h pour un prochain Jukebox.